Bonjour à tous et à toutes. Et l'Assemblée est vraiment clairsemée ce matin. Donc vous l'aurez compris, il y avait un mariage hier et il y en a qui sont bien fatigués ce matin. Merci à tous les courageux qui ont franchi les portes de notre Église. Et je salue à nouveau les visiteurs, ceux qui sont arrivés entre-temps. Alors, j'attends... En tout cas, si j'ai dit « je vais essayer de ne pas craindre », c'est parce que le thème ce matin, vous l'avez déjà entendu à travers la louange. Nous allons continuer à l'évoquer pendant la prédication. Nous voulons vraiment vous encourager à ne pas craindre, mais à vraiment vous confier en notre Seigneur. Mais est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir peur ? De craindre quelque chose, d'être paralysé par des événements ou des circonstances extérieures, d'être déstabilisé par le jugement de personnes extérieures ou par vos propres sentiments et pensées. C'est à nouveau une méditation lue sur ce sujet avec Hervé qui m'a fait réfléchir à ces questions. L'ange qui apparaît pour annoncer la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur au berger déclare « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie » dans Luc 2, verset 10. Pourtant, il pourrait être complètement troublé. Toutefois, la suite du récit nous montre qu'après avoir éprouvé une grande frayeur, les bergers ont fait confiance à l'ange et sont allés trouver l'enfant nouveau-né. Mais nous, qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place ? Est-ce que nous aurions pris nos jambes à notre cou pour fuir loin de là ? Est-ce que nous serions restés prostrés, n'osant plus bouger ? Pour ma part, c'est un événement spectaculaire qui ne m'aurait pas laissée indifférente, mais je ne sais pas si je me serais levée pour aller voir ce qu'on m'annonçait, j'aurais eu terriblement peur. Et finalement, qu'est-ce qui nous remplit de crainte et de peur dans nos vies ? Dans notre vie quotidienne, ce n'est pourtant pas par de telles apparitions que la crainte monte en nous. Quand je rédigeais cette méditation, il y avait une sauterelle qui s'était posée sur le montant de la porte, juste sous mon nez. J'aurais pu me laisser impressionner, il y en a plein qui n'aiment pas les petites bêtes et qui s'enfuient loin. Et en plus, j'essayais de la prendre en photo, mais vous voyez, elle paraît immense avec l'ombre qui est projetée. Encore plus inquiétante. Alors, finalement, quand j'ai pris cette photo, elle a vu que je bougeais, c'est elle qui a eu peur et elle s'est sauvée. Certains sont paniqués à la vue d'une araignée. On n'aime pas les araignées, on les fuit, on les tue, on les chasse. Mais pourtant, dans une maison, une araignée est bien utile. Elle mange les insectes en tissant sa toile, les moustiques, les mouches. Sa présence, c'est un signe de bonne santé dans une maison. Elle fuit les lieux pollués ou humides. Donc s'il y a des araignées dans votre maison, c'est que vous avez une maison saine. Donc réjouissez-vous d'avoir des araignées dans votre maison. Hervé et moi, on peut vous en parler, on se réjouit d'avoir des araignées. Vraiment, on en a beaucoup dans la maison. Ça montre qu'on peut vivre sainement dans notre demeure. Et puis en plus, sous nos contrées, les araignées, elles sont totalement inoffensives. Donc notre peur n'a pas de fondement. Nous, on n'a pas les mygales ou autre. Une autre peur. Lorsque j'étais jeune écolière, peut-être qu'on l'enseigne toujours, mais on m'enseignait en cours d'histoire que parmi les peuplades qui occupaient notre territoire, qui est maintenant la France, il y avait les Gaulois. Est-ce que vous savez quelle était leur crainte permanente ? Oui, il y en a qui font signe que le ciel leur tombe sur la tête. Et donc, on dit qu'ils avaient peur de rien sauf de ça. Ils imaginaient que la voûte céleste était soutenue par de gros piliers. Ils redoutaient qu'un jour, les piliers ne cèdent à cause de la colère de leur Dieu. Et je me suis demandé si c'est pas ça qu'on est en train de vivre actuellement, ces temps-ci, avec le réchauffement climatique et les orages impressionnants qui parcourent notre pays et font de si gros dégâts. Est-ce que vous aussi, vous craignez que le ciel ne vous tombe sur la tête? Alors, en parlant d'école, maintenant que l'école est finie et que nous sommes en vacances pour certains, nous pouvons également évoquer une grande crainte que nous connaissons ou avons tous connue pour la plupart en fin d'année scolaire, la crainte de l'échec. Rater un examen ou bien ne pas être recruté pour un travail lorsqu'on a réussi à son diplôme, ne pas trouver de place dans une école, une université pour poursuivre les études l'an prochain. On vient de prier pour Tsanta qui a besoin de trouver un stage pour son alternance, pour son master. Nous éprouvons comme un grand vertige, un malaise incontrôlable, parce que notre avenir dépend tellement de ces quelques jours ou semaines où tout se joue pour notre future situation professionnelle, en fait pour notre vie d'adulte. Alors je pourrais encore citer bien des craintes que nous éprouvons, l'énoncé d'un mauvais diagnostic après des examens médicaux, la peur de ce qui peut arriver à l'autre, notre conjoint, notre enfant, notre ami, lorsqu'il est loin de nous. La peur des conflits qui se multiplient autour de nous, les guerres et bruits de guerre qui n'ont rien de rassurant, la crainte qu'un malfaiteur s'introduise en notre maison, là, pendant qu'on est absent. Je vous laisse trouver par vous-même ce qui vous met dans un sentiment de crainte et de peur, afin de pouvoir ensuite trouver comment y remédier. Mais vous l'avez vu, le deuxième point que je vous propose ce matin, c'est comment dépasser la crainte. Alors, pour comprendre comment la peur nous impacte et comment dépasser cette crainte, je vous invite à lire ce matin dans le livre de Daniel, au chapitre 10, les versets 7 à 19. « Moi, Daniel, je fus seul à voir cette apparition. Les gens qui étaient avec moi ne la virent pas. Ils furent soudain saisis d'une grande frayeur et coururent se cacher. » Je demeurai donc seul à contempler cette apparition grandiose. J'en perdis mes forces. Je devins tout pâle et mes traits se décomposèrent. Je me sentais défaillir. J'entendis le personnage prononcer des paroles et, en entendant sa voix, je m'évanouis et je tombai la face contre terre. Alors, une main me toucha. Elle me fit me redresser, tout tremblant sur mes genoux, et sur les paumes de mes mains. Puis la voix me dit, « Daniel, homme bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse. Mets-toi debout où tu es, car j'ai été maintenant envoyé vers toi. » Pendant qu'il prononçait ces mots, je me relevais tout tremblant. Il poursuivit, « Sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue. Et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi durant 21 jours. Alors Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là auprès des rois de Perse. Je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car c'est encore une vision qui concerne ce temps-là. Pendant qu'il m'adressait ces paroles, je me prosternais la face contre terre et je restais muet. Et voici qu'un personnage qui avait l'aspect d'un homme me toucha les lèvres. Alors je pus de nouveau ouvrir la bouche et parler. M'adressant au personnage qui se tenait devant moi, je lui dis « Monseigneur, cette apparition me remplit d'angoisse au point de m'ôter toute force. Comment le serviteur de Monseigneur que je suis pourrait-il parler à Monseigneur qui m'est apparu alors que je n'ai plus aucune force et que j'ai perdu le souffle ? Alors celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha et me fortifia. Puis il me dit « Sois sans crainte, homme bien-aimé de Dieu, que la paix soit avec toi. « Fortifie-toi et prends courage. » Pendant qu'il me parlait, je repris des forces et je lui dis, « que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Alors, dans un premier temps, essayons de comprendre comment se situe ce récit dans le livre de Daniel. Nous pouvons grossièrement distinguer deux parties dans ce livre. Les chapitres 1 à 6 sont une description des royaumes de ce monde, comment ceux qui vivent loin du Créateur luttent en permanence pour garder leur pouvoir sans avoir en référé à Dieu. Souvenez-vous, Daniel qui est jeté dans la fosse aux lions parce qu'il refuse de se prosterner devant le roi et qu'il préfère se prosterner devant son Dieu. Daniel, dans cette partie, c'est celui qui interprète des rêves, qui peut rapporter la parole de Dieu. Dans les chapitres 7 à 12, nous trouvons plutôt une description de la guerre spirituelle qui sévit, une annonce des persécutions à venir, un établissement du ministère prophétique de Daniel. C'est lui qui devient alors le rêveur, lui qui a des visions, celui à qui Dieu révèle ses desseins. Et alors qu'il reçoit les visions de Dieu, Daniel se trouve en présence d'une apparition grandiose. Différents commentateurs identifient cette apparition comme étant une manifestation du Christ. Nous retrouvons dans d'autres textes bibliques la même façon de le décrire. Il y a l'apparition à Paul sur le chemin de Damas. Et les descriptions que l'on retrouve avec les mêmes mots dans le livre de l'Apocalypse. Voyons comment les personnages dans l'histoire de Daniel réagissent, comment ils se comportent. Alors les gens présents ne voient rien de ce qui se passe, mais ils comprennent que quelque chose d'extraordinaire se passe, alors ils s'enfuient. Comme l'image que je vous ai montrée, ils prennent leurs jambes à leur cou. Voilà un trait de caractère bien humain. Au lieu de chercher avec sagesse ce qui se passe, on préfère souvent prendre la fuite. On commence alors à imaginer des choses et on fuit loin de la réalité. En voyant l'apparition, il nous est dit de Daniel qu'il perd ses forces, qu'il devient tout pâle, que ses traits se décomposent, qu'il défaillit. Et en entendant la voix, le degré de peur augmente, il s'évanouit et il tombe face contre terre. Alors, en tant que femmes et hommes du XXIe siècle, nous pouvons consulter des sites en ligne pour connaître les manifestations physiques de la peur. Et sur Doctissimo, j'ai trouvé, on a la bouche sèche, pâteuse, je me suis trompée dans mon PowerPoint, la transpiration excessive, l'accélération du rythme cardiaque, des tremblements, des spasmes ou des tensions musculaires, de la paralysie d'effroi, l'impossibilité de bouger ou de réagir, on a le souffle court, la pâleur du teint, l'écarquillement des yeux et la dilatation des pupilles, la chair de poule, des nausées, une sensation de boule à l'estomac, un changement de la température corporelle, des étourdissements ou de la désorientation. Relisez le texte de Daniel. Je ne vais pas le faire avec vous maintenant, mais en fait, vous trouvez tout ça dans ce que je viens de lire. On n'a rien inventé, déjà les anciens connaissaient toutes les manifestations de la peur. Alors regardons ce qui se passe. L'apparition a compassion de Daniel et le touche pour le fortifier. Elle l'encourage, sois sans crainte. Elle lui parle avec une grande douceur, le rassure. Nous aspirons tous à avoir près de nous des personnes qui nous parlent ainsi dans un moment difficile, n'est-ce pas ? Homme bien-aimé de Dieu, mets-toi debout. Ta prière a été exaucée. Voilà ce qui est dit à Daniel. Ce ne sont pas là des paroles de jugement, d'accusation, mais des paroles de réconfort qui projettent vers l'avenir. Pourtant, dans les versets 15 à 18, Daniel ne paraît pas du tout rassuré. Il est tout d'abord muet et prostré. Il ne peut s'exprimer, il a besoin d'un nouveau geste, comme celui d'un ange qui le touche et lui redonne la parole. Il exprime alors son angoisse, le fait qu'il est sans force, la respiration coupée. Son interlocuteur le rassure et le fortifie toujours avec beaucoup de douceur et lui dit à nouveau « Sois sans crainte !» Et là, au verset 19, Daniel est prêt à écouter et à entendre. Alors, qu'est-ce que nous pouvons en tirer pour nous-mêmes ? Cet épisode de terreur vécu par Daniel peut nous apprendre beaucoup de choses. Nous pouvons reconnaître, nous aussi, notre propre faiblesse face aux situations qui nous perturbent. Dieu nous connaît parfaitement. Il n'attend pas de nous que nous soyons toujours indifférents aux événements qui nous entourent. Nous n'avons pas à jouer les braves devant lui. Avec ce récit, nous reconnaissons les symptômes physiques de la peur et nous pouvons les identifier lorsque nous en sommes victimes. Non pour en avoir honte, mais pour pouvoir les surmonter. Et surtout, nous pouvons voir dans ce texte l'assurance que Dieu est à nos côtés et nous aide à surmonter cette peur. Jésus a affirmé une première fois à Daniel, « Sois sans crainte » au verset 12. Il ne s'est pas énervé, il l'a accompagné dans ce chemin pour sortir de cette peur. Et une nouvelle fois au verset 18, il lui aurait dit « Sois sans crainte ». Mais il fait de même pour nous. En fait, Daniel nous montre le chemin. Nous ne devons pas rester dans notre état de personne angoissée. Nous pouvons dialoguer avec Dieu, faire entendre nous aussi notre voix pour dire ce que nous ressentons, afin que Dieu nous aide à en sortir. Et finalement, ce qui m'interpelle avec ces trois mots, « sois sans crainte » ou « ne crains rien », c'est qu'il se trouve dans bien d'autres versets de la Bible. Je citerai entre autres 1 Samuel 2:23. Alors j'ai mis les références, si vous voulez les noter, je vais vous les lire. « Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. » Psaume 56, verset 5. « Je me glorifierai en Dieu, en sa parole, je me confie en Dieu, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. » Psaume 56, toujours au verset 12. « Je me confie en Dieu, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. » Psaume 118, verset 6. « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ?» Vous voyez, à différents endroits, les mêmes paroles. Ésaïe 7, verset 4, et dis-lui, « Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. » Ésaïe 43, au verset 1, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. » Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Ésaïe 43, au verset 5, ne crains rien, car je suis avec toi, je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemble de l'Occident. Ésaïe 44, le verset 2, ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Et le texte le plus couramment cité sur ce sujet, que nous avons déjà lu en introduction, se trouve en Ésaïe 41, les versets 10 à 13. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien. Réduis au néant ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Dans tous ces textes que je viens de vous citer, nous retrouvons une constante. Il est inutile de craindre, car Dieu est là, près de nous. Ce n'est pas la théorie de la prospérité, ça ne dit pas que nous ne connaîtrons que des bonnes choses, que des bonnes expériences dans nos vies, comme de toujours réussir aux examens ou de ne pas passer par l'épreuve de la maladie. Mais nous avons une certitude. Lorsque nous passons par le creuset de l'épreuve, nous ne sommes pas seuls. C'est d'ailleurs une affirmation forte du psaume 23 au verset 4 que vous connaissez tous. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de toi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Alors vous pensez peut-être que c'est facile à dire, mais pas si évident à vivre. J'aimerais donc partager avec vous le message d'une amie pasteur que j'ai reçue cette semaine. Elle est atteinte d'un cancer et voici ce dont elle témoigne. Il y a presque 2 ans, je vous annonçais être atteinte d'un deuxième cancer. Après le premier, le Seigneur m'a accordé 25 ans de répit et j'ai pu continuer à exercer mon ministère pastoral en église et dans le cadre de l'aumônerie aux aéroports. Pour ce deuxième cancer, très agressif, un cancer triple négatif, j'ai dû subir une chimiothérapie très agressive, elle aussi, et qui a échoué. L'opération qui a suivi n'a pu exciser que 2 tumeurs sur 4. Le Seigneur m'a donné la force nécessaire pour au moins continuer à accompagner les enfants de notre communauté dans leur cheminement spirituel et à prêcher de temps en temps, jusqu'à il y a 15 jours. Il y a quelques mois, j'ai écrit un livre sur quelques femmes baptistes du XVIIIe siècle à nos jours, livre qui doit paraître incessamment chez Excelsis. Maintenant, le cancer s'est métastasé jusqu'au cerveau. Je suis un traitement de corticoïdes à haute dose pour réduire l'hématome qui s'est formé sur les vertèbres cervicales. Ce traitement actuel est un traitement palliatif qui me permet de vivre à peu près normalement au quotidien et j'en remercie le Seigneur. Mais je suis très fatiguée. Quoi qu'il arrive, continuez à bénir le Seigneur pour son amour et son accompagnement continuel. Et prenez chaque jour de vie comme un cadeau du Seigneur. Recevez toute mon affection en Christ. Je me retiens parce que j'ai déjà pleuré quand j'ai lu ça et je suis à nouveau vraiment émue. Quel exemple de vie et de confiance pour chacun d'entre nous que d'entendre ou lire ces quelques lignes, n'est-ce pas? Ma chère sœur met très exactement en application ce que son Seigneur déclare dans sa parole. « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Oui, elle sait qu'elle avance vers la fin de sa vie. Elle ne sait pas comment cette vie prendra fin, dans quelle douleur, avec quelle perte de conscience de ce qui l'entoure. Mais tout dans son message montre qu'elle ne craint pas, parce qu'elle sait qui l'accompagne. Alors, peut-être que vous allez vous dire, là, elle nous plombe les vacances. Mais en tout cas, les vacances, c'est aussi un moment où on a l'impression que les soucis vont rester derrière nous, puis on se rend compte que non, ils sont toujours là. Et ce matin, je veux vraiment vous encourager. En ce temps de vacances, prenez le temps de réfléchir. Ne crains rien. Dieu est à tes côtés. Il t'accompagne. Les soucis ne sont pas partis, mais ils ne seront pas plus forts à la rentrée. Dieu est là et il t'aide à les porter et à vivre au travers. Alors pour terminer ce message, j'aimerais revenir à ce que je vous ai partagé tout au début de mon propos. Ces réflexions m'ont été inspirées par une méditation lue et partagée avec Hervé. Le « ne craignez point » qui était développé était celui des anges envers les bergers lorsqu'ils leur ont annoncé la naissance de Jésus. Et je terminerai avec les quelques lignes de la fin de cette méditation. Les sceptiques ont traqué Jésus tout au long de son ministère. Comment un bébé né à Bethléem, le fils d'un charpentier, pouvait-il être le Messie de Dieu ? Reste que des bergers, traversant un champ, ne doutaient aucunement de son identité, car ils tenaient la bonne nouvelle directement d'une multitude de l'armée céleste. Pourquoi Dieu s'est-il donc incarné ? La Bible en donne de nombreuses raisons, dont certaines sont hautement théologiques et d'autres très pratiques. Mais la scène où un Jésus adolescent fait la leçon au rabbi dans le temple nous en fournit un indice. Pour la première fois, le commun des mortels pouvait s'entretenir et débattre avec un Dieu visible. Jésus pouvait parler avec qui que ce soit, ses parents, un rabbi, une pauvre veuve, sans avoir d'abord à lui dire « ne craignez point ». En Jésus, Dieu s'approche tout près de nous. Prions. Oui, Seigneur, ce matin, nous pouvons confesser avec assurance que tu es là tout près de nous. Tu n'as plus besoin de nous répéter tout le temps « ne crains point, ne craignez point », parce que nous savons que tu es là. Mets dans notre cœur cette assurance. Mets dans notre cœur cette certitude que nous n'avons rien à craindre parce que tu es là. Aide notre esprit à comprendre que nous n'avons pas besoin d'avoir peur, que nous n'avons pas besoin de redouter ce qui nous entoure, ce qui nous arrive, que nous n'avons pas besoin de redouter la rentrée, par exemple, parce que des tas de choses vont survenir, parce que oui, tu es là. Que ce temps de vacances nous permette d'expérimenter et de garder avec assurance cette parole en nos cœurs, afin que nous soyons vraiment disposés à vivre avec toi, à vivre de toi, à vivre pour toi, sans nous laisser bouleverser et détourner par tout ce qui nous entoure. C'est vraiment un paradoxe, alors que nous vivons dans un monde si troublé, mais c'est un témoignage que nous voulons apporter à nos frères, à nos sœurs. Non, je ne crains pas, car tu es là, près de moi. En Jésus-Christ. Amen.